Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire. Je suis avec Philippe Peter, qui d'abord est un copain. Ça, c'est la première raison pour laquelle je l'ai invité. Et surtout, c'est un grand, grand, grand connaisseur de la bande dessinée contemporaine et de son histoire. Et je l'ai invité pour me parler des trois artistes qui sont nommés pour la sélection du Fauve d'Or. Enfin, du Fauve à Angoulême, d'ailleurs, c'est pas un Fauve d'Or, c'est le Fauve, le Grand Prix d'Angoulême. Il y a deux femmes et un homme, il y a eu quelques débats sur ces trois personnages. On va parler un peu de la nature de ce débat et de qui vote et comment on vote pour élire le Grand Prix du Festival d'Angoulême. Mais avant de parler de tout ça, Philippe, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ?
Eh bien, je m'appelle Philippe Peter, je suis journaliste. Et je me suis spécialisé il y a maintenant un peu plus de 10 ans, 12 ans dans la BD. Donc, je travaille essentiellement pour le magazine des BD. Et puis, comme tu l'as dit, on est ensemble sur Case d'Histoire. Et toi, maintenant, tu fais plein d'autres choses. Moi, je fais aussi d'autres choses de mon côté. Mais voilà, toujours sur la bande dessinée.
Et je précise que tu vis en Serbie en plus.
Ouais, je vis actuellement en Serbie où... J'ai la chance de... Enfin là, on a réussi à développer des choses, des partenariats avec l'Institut français. Et donc, normalement, si tout va bien, c'est pas un scoop, mais si, pour la France, c'est un peu un scoop. Il y a Pierre-Henri Gaumont qui va venir dans la ville où j'habite.
Remarquable auteur, en plus.
Voilà. Donc, c'est cool.
Alors, on va parler donc des trois artistes qui sont en lice pour le Fauve d'Angoulême. Il y a Catherine Meurice, Alison Bechdel et un homme, Riyad Satouf. Est-ce que tu peux nous présenter chacun de ces artistes en nous donnant un peu leurs caractéristiques et leur pédigré, on va dire.
On va commencer dans l'ordre que tu as choisi. Il n'y a pas d'ordre de préférence. Hein, mais donc Catherine Meurice, je pense que c'est pas la plus connue des trois, mais c'est certainement la deuxième plus connue des trois. Notamment parce que c'est une jeune autrice, hein, elle a 42 ans. Là, elle a récemment, il y a 2 ans et demi, 3 ans, elle a été nommée à l'Académie des Beaux-Arts. Elle a été intronisée il y a quelques mois, là, à peine. Il y a eu cette cérémonie qui a été un peu en décalage pour des raisons sanitaires qu'on connaît tous. Donc, c'est important, je parle de l'Académie des Beaux-Arts, c'est important parce que Catherine Meurice, c'est la première auteure ou autrice de bande dessinée à... entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Il n'y a jamais eu d'auteur ou d'autrice de bande dessinée avant elle à l'Académie des Beaux-Arts. C'est la première et elle vient d'être, elle va être rejointe là par Emmanuel Guibert qui a été élu hier à l'Académie des Beaux-Arts. Donc ils seront deux. Et Meurice, elle a une œuvre intéressante qui parle beaucoup d'art et de littérature. Le premier livre pour lequel elle a été, elle s'est fait connaître, c'est Mes Hommes de Lettres, qui était sorti chez Sarbacane, puis Le Pont des Arts aussi chez Sarbacane, puis elle a fait le Moderne Olympia. Elle a fait partie évidemment pendant plus de 10 ans de l'équipe de Charlie Hebdo, on la connaît aussi pour ça. Donc voilà, une autrice jeune, déjà, qui a pas mal, j'ai passé en vitesse, hein, parce qu'elle a bossé pour la presse jeunesse aussi, elle a fait beaucoup de choses, et c'est un petit peu elle ressemble beaucoup, on la compare souvent à Claire Bretéché, donc dans son style, dans la tonalité de son propos. Ensuite, Alison Bechdel, la deuxième nominée. Alors, elle est peut-être moins connue du grand public. C'est une autrice américaine, qui est plus âgée aussi, qui a la soixantaine. Maintenant, c'est une autrice très importante pour la scène underground américaine et internationale. C'est une autrice qui a commencé à publier jeune dans les années 80. Elle avait 23-24 ans. donc très très jeune, elle a été remarquée assez vite, toujours dans cette scène underground, mais enfin aux États-Unis dans les années 80. C'est Art Spiegelman, c'est Robert Crumb, enfin on parle quand même de pointure. Et Bechdel, son œuvre, on pourrait la caractériser par un mot, c'est autobiographie, autofiction. Elle se met en scène dans des récits. Alors il y a les premiers récits pour lesquels elle s'est fait connaître en France. Ça a été rassemblé, là je vais donner le titre du livre de l'intégrale qui est sorti aux éditions Même Pas Mal. Et donc c'est l'essentiel des Gwyn à suivre. Donc, puisque Alison Bechdel est homosexuelle et parle de ça dans ses livres, mais pas que. C'est pas un pamphlet pro-homosexualité, c'est pas l'objectif. Elle parle de ça notamment et c'est hyper drôle et intéressant. Et puis il y a le deuxième volet de son œuvre, c'est sa trilogie autobiographique. Le dernier volet là est sorti l'année dernière et ça s'appelle le dernier volet s'appelle Le secret de la force surhumaine. Et là, c'est des livres qui sont pas forcément, ce sont pas des livres qui sont difficiles à lire, mais ce sont des livres qui sont difficiles à suivre parce qu'elles digressent en permanence. Je trouve ça très drôle, très érudit. C'est pas toujours évident, mais voilà, il y a un vrai savoir-faire. C'est une autrice très importante. Donc son nom est peut-être moins connu d'un grand public, pour autant, c'est une autrice importante.
Oui, d'ailleurs, c'est une autrice vraiment très importante. Elle a des prix extrêmement prestigieux aux États-Unis. Je crois qu'elle a eu deux fois le Eisner Award. Elle est dans l'espèce d'académie de la bande dessinée américaine. Elle a eu une bourse qui est incroyable, une bourse Genius, qui est 400 000 dollars pour travailler sur 5 ans sur un projet. Son dernier album a été sélectionné pour un grand prix littéraire, ce qui n'était jamais arrivé dans la bande dessinée. C'est vraiment quelqu'un de très important.
Elle est au Eisner Hall of Fame, hein, donc elle a eu des prix Eisner et en plus elle est dans ce temple de la renommée Eisner, donc c'est le Panthéon, c'est l'académie d'Angoulême en fait, version américaine. Donc oui, tout à fait.
Alors le dernier, c'est le seul homme de la sélection, c'est Riyad Satouf, donc hyper connu, cinéaste, c'est Pascal Brutal et c'est tout un tas d'autres albums. Est-ce que tu peux j'imagine que tu l'as rencontré, est-ce que tu peux le présenter sur Riyad Satouf?
Riyad Satouf, c'est tu as bien résumé Riyad Satouf, auteur de BD à succès. Tous ses livres depuis Pascal Brutal sont des best-sellers. Alors je ne juge jamais la qualité d'une BD à l'aune de ses ventes, mais là en l'occurrence, personnellement, je suis un fan. Et je me réjouis qu'une série comme L'Arabe du Futur, qui est en 6 volumes quand même, rencontre toujours autant de succès. Il y a Les Cahiers d'Esther aussi récemment. On le connaît pour le cinéma, comme tu l'as dit, et notamment pour les beaux gosses. C'est un jeune auteur, hein, de mémoire, il a 44 ans, je crois. Donc, c'est peut-être l'auteur le plus. C'est l'auteur certainement le plus prometteur de sa génération. Il n'a plus rien à prouver maintenant, mais voilà, c'est un symbole pour ce qu'on a appelé la génération, la nouvelle bande dessinée. Moi, j'aime pas trop ce terme, mais cette bande dessinée qui est née dans les années 90 avec l'association, avec Ego Comics, avec des auteurs comme Trondheim, Conture, plus tard Sfar, etc. Blin. Lui, il est un peu plus jeune quand même. Mais il s'est raccroché à ce wagon-là et pour moi, Satouf, c'est l'hybridation parfaite entre la BD franco-belge de notre enfance et notamment une ligne qu'on va qualifier de claire, disons, et toute la liberté de ton, de parole, d'expression qu'a offert cette nouvelle bande dessinée dans les années 90. Et lui, voilà, il est juste en plein milieu et il fait ça très bien. Donc, ça serait un grand prix tout à fait mérité. Et je précise juste, c'est un des seuls auteurs, je crois qu'ils sont deux, j'ai oublié maintenant le nom du deuxième auteur, avoir obtenu deux fois le Fauve d'Or à Angoulême. Une fois pour un Pascal Brutal et donc une fois pour l'Arabe du Futur. Donc, ce ne serait pas du tout pour moi, il serait favori sur les trois. Maintenant, il y a cette botte des auteurs, donc là, il n'y a rien qui est bien joué.
Moi, ce qui est intéressant chez Satouf, c'est que c'est un auteur très, très politique, mais l'air de rien. C'est ça aussi que je trouve très fort chez lui. C'est qu'il fait passer des idées extrêmement fortes, il te fait vraiment réfléchir sur la société dans laquelle on vit, mais l'air de rien. Ça, c'est, je trouve que c'est vraiment un génie pour ça, quoi.
Oui, bah, c'est effectivement, c'est là où, contrairement à... Bah, c'est pas une question de, c'est pas pour les comparer, hein, c'est pas une question de qualité, mais Alison Bechdel, c'est clairement une autrice qui fait de l'autobiographie, éventuellement de l'autofiction, mais c'est donc, elle parle d'elle. C'est pas égocentrique, c'est une manière de raconter le monde à travers son regard. Meurice, c'est un peu pareil. Après, elle, c'est notamment dû au fait qu'elle a beaucoup travaillé en presse. Et Satouf, lui, il plonge ses racines quand même dans la bande dessinée, comme je disais, la bande dessinée historique de l'âge d'or de la BD, avec des récits de fiction. Donc, il aime aussi fictionnaliser ses récits. Il a très bien fait avec Pascal Brutal, qui est un... On pouvait le lire comme une comédie absurde et on pouvait le lire aussi comme un pamphlet ultra critique de notre société et en même temps ultra drôle parce que ça reste très drôle. Et l'Arabe du futur, c'est pareil. C'est un récit très intimiste et en même temps, il utilise toujours l'humour pour se détacher de ce côté intime et des difficultés à parler du soi. Et pour glisser quelques petites politiques.
Donc on a les trois auteurs. Il y a eu pas mal de remous au cours de l'histoire d'Angoulême, notamment pour l'élection de ce Grand Prix. En 2016, c'est une date très importante puisqu'il y a un basculement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi 2016 est le moment de bascule dans cette élection du Grand Prix?
Parce que En 2016, pour la première fois, ce sont les auteurs qui votent directement pour le Grand Prix. C'est-à-dire qu'il y a le Festival d'Angoulême a mis en place un système assez obscur malgré tout. Enfin, je dis obscur, opaque parce que c'est vérifié par huissier. Donc, ok, moi je leur fais confiance. Mais c'est vrai que ça manque souvent de clarté à Angoulême. Donc là c'est une nouvelle fois le cas. Mais ce qui est important, c'est que les auteurs qui ont publié, donc ça peut être des auteurs français, francophones, étrangers non francophones, à condition qu'ils aient publié en français, que leur ouvrage ait été publié en français ou traduit en français, peuvent donc voter en fait pour l'élection du Grand Prix. Et ça, c'est alors, on pourra toujours critiquer le système. Ce système-là en particulier, mais par rapport au système précédent, je passe sur les deux années où il y a eu un double système, enfin bon, c'était un truc très bancal qui n'est pas resté, mais le système auparavant, ça se fonctionnait par cooptation, puisque les anciens Grands Prix, les membres de l'Académie des Grands Prix, donc les anciens Grands Prix, votaient pour un nouveau Grand Prix, une nouvelle Grand Prix. Ce qui donnait lieu évidemment à du copinage, hein, on peut le dire clairement, et ce qui a donné lieu à des... Je ne vais pas citer de noms parce que je n'ai pas envie de les vexer et mine de rien, ils méritent d'être dans cette Académie des Grands Prix, donc tu ne m'en voudras pas de pas
vouloir... Oui, bien sûr, on n'est pas là pour dénoncer, on est là pour expliquer le process.
Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui ont eu ce Grand Prix, et qui d'un côté le méritent complètement, il n'y a pas de souci, mais bon, voilà. C'était devenu trop flou, c'était devenu trop de copinage et surtout des auteurs. Il faut quand même prendre conscience d'une chose, c'est que l'Académie des Grands Prix rassemblait des auteurs assez âgés et toujours plus vieillissants, à part quelques exceptions, Zeb Trondheim qu'il avait eu très jeune. Et les auteurs, en vieillissant, ont la mauvaise habitude d'arrêter progressivement de lire de la bande dessinée. Et ça, c'est assez général. Hein. C'est pas tout le monde, mais c'est très général. Donc, on en arrivait à en fait tout un tas d'auteurs membres de l'Académie des Grands Prix qui en fait ne connaissaient pas du tout les travaux de leurs jeunes homologues. Quoi. Donc, comment veux-tu voter pour un auteur ou une autrice, un génie ou une génie en devenir? Si tu n'as jamais lu ces livres. Donc voilà.
Oui, notamment les femmes, puisque c'est le
notamment les femmes.
Le basculement est venu à ce moment-là où il n'y avait plus aucune femme dans la liste des possibles Grands Prix. Donc ça devenait insupportable.
Tout à fait. Il y a eu cette polémique en 2013, si je ne dis pas de bêtises. Alors là, c'est la période que je voulais pas aborder tout à l'heure parce que c'est très compliqué. C'est-à-dire que le festival d'Angoulême décide de changer le système de vote, donc publie une shortlist de 30 noms. Sauf que sur ces 30 noms, il n'y a pas une seule femme. Donc problème. Ça fait partie des nombreuses polémiques qui émaillent chaque année ou presque le festival d'Angoulême.
Mais donc, sans aller plus loin, c'est intéressant de voir que cette absence des femmes de cette liste a été un des points où le débat est vraiment apparu comme important à trancher, en tout cas.
Ben, je pense qu'à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que la question et le problème de l'invisibilisation des femmes dans le milieu de la BD, puisque c'est peut-être ce dont on parle, on en parlait à l'époque. On en parlait de plus en plus. Et avec cette réforme de l'Académie des Grands Prix, je veux dire, à peu près tout le monde, en tout cas celles et ceux pour qui ce débat est important, et je pense que c'est une majorité grandissante de la population, se disaient, on va avoir droit à une forme de parité, quoi, à minima. Et là, non seulement il n'y a pas de parité, mais en plus, il n'y a pas du tout de femmes, quoi. Donc, c'est-à-dire que d'un point de vue... Mais rien qu'en termes de communication, c'était catastrophique. Depuis, le festival a fait machine arrière. Et je pense qu'aujourd'hui, alors c'est pas officiel, hein, et puis comme je disais, normalement, c'est pas comme ça que ça va marcher. Enfin, c'est pas comme ça que ça devrait marcher, puisque le vote est libre et sous contrôle d'huissier. Mais là, j'ai quand même le sentiment qu'on va se diriger vers une alternance, un homme, une femme, chaque année, quoi. C'est un peu ce vers quoi on se dirige. Bon. À titre personnel, je trouve ça un peu dommage d'imposer ce rythme-là. Si c'est le cas, je ne peux rien affirmer, mais ça me paraît être ce vers quoi on se dirige.
Alors, l'autre chose qui m'a frappé, c'est que normalement, un grand prix, c'est un peu comme les prix qu'on remet pour l'ensemble d'une carrière. C'était un peu ça au début, le principe du grand prix. Ça couronnait des auteurs qui avaient une longue carrière, une grosse production, une influence importante sur les autres auteurs de bande dessinée. Là, on est passé depuis 3-4 ans à autre chose. On est sur des auteurs importants pour l'époque dans laquelle ils vivent.
Oui, c'est sûr que on n'a qu'à prendre la liste des Grands Prix. Hein. Le premier Grand Prix, c'est André Franquin. Voilà. Ensuite, dans la liste des années qui suivent, on a Jigé, on a Moebius, Sardi, etc. Là, sur les derniers Grands Prix, on a des auteurs qui sont peut-être moins connus, certainement moins connus du grand public. Pas forcément moins mainstream, pardon, hein, parce que Rumiko Takahashi, donc c'est une autrice japonaise qui a obtenu le Grand Prix en 2019, c'est l'autrice de Ranma 1,5 notamment. Hein, donc ça, c'est quand même un grand succès. Moi, je suis de la génération Club Dorothée, donc... Ranma 1,5, pour ma génération, c'est il n'y a pas plus mainstream, comme c'est un manga, puis c'est devenu un animé. Donc, elle n'est pas forcément connue du grand public, parce que quand on regarde un dessin animé à la télé, on ne sait pas quel est l'auteur ou l'autrice du manga d'origine, mais son œuvre, elle, est très grand public. Après, c'est sûr que Julie Doucet, en 2022, Chris Ware, même Emmanuel Guibert, Richard Corben... Là, on est déjà sur des auteurs qui ont une œuvre immense, dans des genres très différents, mais c'est plus confidentiel, surtout pour Richard Corben ou Julie Doucet. Même Julie Doucet, ça a fait beaucoup de débats l'année dernière. Julie Doucet, elle a une œuvre qui a profondément marqué la BD. Là, pareil, hein, je peux faire un rapprochement avec Bechdel, même si elle est quand même plus jeune que Bechdel. Mais elle a profondément marqué la BD canadienne des années 80, dans les années 80, enfin la bande dessinée, et notamment la bande dessinée canadienne et québécoise, puisqu'elle est québécoise, dans les années 90. Bon, bah, les années 90, c'est il y a 20 ans, donc on a peut-être un peu oublié, mais c'est une autrice majeure. Donc, qu'elle ait eu son grand prix, c'est absolument, il n'y a rien à dire pour moi. Mais effectivement, que le grand public se dise, mais qui est cette Julie Doucet? Voilà, c'est là où le festival... Euh, je, pour le résumer en une phrase, le Festival d'Angoulême est divisé depuis des années entre la partie festival, compétition, l'aspect purement artistique et l'aspect salon, c'est-à-dire grand public. Bon ben, le fossé entre ces deux volets de l'événement est en train de se creuser. Et c'est sûr qu'avec des grands prix très légitimes, mais moins grand public, ce fossé va continuer à se creuser.
Oui, parce que quand on voit les débats, notamment dans le milieu des auteurs de bande dessinée sur ce grand prix, il y en a beaucoup d'abord qui ne connaissent pas ces autrices. Ça, on peut quand même s'étonner de ce manque de culture. C'est quand même des auteurs majeurs, même s'ils sont étrangers ou s'ils font beaucoup de presse. On peut se dire que même les jeunes auteurs de bande dessinée ne lisent pas vraiment beaucoup forcément de bande dessinée en dehors de leur style ou des choses qui leur sont proches. Et dans tous les débats, il y a aussi, ils disent, ouais, mais il y a des grands auteurs comme Rosinski, comme Van Damme, qui ne l'auront jamais, quoi. Ça, je trouve que c'est un débat qui est à la fois intéressant et qui est en même temps très biaisé, parce qu'on ne sait pas parce qu'on a une grande carrière qu'on doit avoir ce prix.
Van Damme, a priori, ne l'aura jamais, parce que c'est juste, pardon. J'ai fourché. Alors que, non, mais j'ai fourché parce que j'ai un respect immense pour Van Damme. Mais il n'est que scénariste. Malheureusement, c'est ça la réalité. Le Grand Prix de la ville d'Angoulême, c'était pas dans les statuts. Ça n'a jamais été dans les statuts à ma connaissance, mais récompense un auteur ou une autrice complet ou complète. Donc, Van Damme, scénariste, Rosinski, dessinateur, c'est foutu. Alors, c'est absurde, hein. Moi, l'histoire de Van Damme qui n'aura jamais le Grand Prix, on en parle depuis, 25 ans au moins. Donc moi je trouve ça personnellement absurde. Après bon, voilà, c'est comme ça. Après, par rapport à ce que tu disais par rapport au début de ta remarque, les auteurs qui ne connaissent pas Catherine Meurice, surtout s'ils sont français, là j'avoue je ne sais pas sur quelle planète ils vivent, parce qu'on en a quand même beaucoup entendu parler. Elle est très médiatisée. Alison Bechdel, moins, ok, elle est moins médiatisée. Le dernier livre qu'elle a sorti, c'était donc l'année dernière, et celui d'avant, c'était 10 ans avant, d'accord. Mais ça reste, surtout que si on fait de la BD indépendante, ça reste une autrice majeure. Ce serait comme de dire, je fais de la BD indépendante, mais je ne connais pas Lewis Trondheim ou Matt Conture ou Chris Ware. C'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. Et puis, juste une chose, par rapport au débat dont tu parlais, moi je dis aux auteurs, allez voter. En fait, allez voter. Il y en a beaucoup qui se plaignent de voir justement des auteurs qui ne ressemblent pas à ce que eux, la BD que eux aiment, et allez voter. Alors votez pour d'autres auteurs ou autrices.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que le premier tour, donc qui sélectionne les trois, il n'y a pas de liste. C'est-à-dire qu'on peut voter pour n'importe quel auteur de son choix. C'est ça aussi qui est à la fois dément et hyper intéressant.
Oui, c'est un vote libre, trois noms, dans un ordre, je crois, ou je ne suis même pas sûr de l'ordre, mais en tout cas trois noms. Donc voilà, tout est possible. Il y a certainement des stratégies pour de convergence de vote, mais donc voilà, tout est possible.
Ben Philippe, je te remercie vraiment beaucoup de ces éclairages passionnants. J'espère que nos auditeurs comprendront mieux pourquoi les gens peuvent s'écharper sur ces trois noms. Et surtout, j'espère qu'ils auront envie de les lire. Parce que Alison Bechdel, c'est vraiment majeur. Comme Riyad Sattouf qui est connue, Catherine Meurice, mais Alison Bechdel, il faut lire cette autrice. D'ailleurs, elle était dans Libé, je crois, une partie de l'été. Il y a eu des extraits de son dernier album. Et je te remercie et je te dis à très vite. À bientôt.
Eh bien, merci à toi et puis à bientôt aussi, ouais. En France ou ailleurs.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh ! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.